Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Comme je l'ai dit au début de notre communion ce matin, je crois que le repas du Seigneur est l'acte d'adoration le plus merveilleux, le plus sacré, le plus unique que l'Église rachetée par le sang de Jésus-Christ ne puisse jamais éprouver. Il est sacré à bien des égards. Premièrement, il est sacré parce qu'il nous rappelle la croix. Le pain parle de son corps et la coupe parle de son sang. Et nous regardons vers la croix où son corps a été crucifié et son sang versé. Et donc, il est sacré à cause de ce souvenir. Mais plus que cela, la table du Seigneur est sacrée parce qu'elle est une communion présente avec le Christ vivant. Il nous rencontre ici. L'apôtre Paul dit « La coupe que nous buvons et le pain que nous brisons, n'est-ce pas le corps et le sang du Seigneur Jésus-Christ ? Nous communions littéralement avec lui. » Et troisièmement, c'est sacré, je crois, parce que Jésus a dit dans Luc 22, versets 19 et 20, « Faites ceci. » Il est donc sacré, parce que c'est un acte d'obéissance. L'obéissance est une chose sacrée et sainte. Ainsi, la table du Seigneur est spéciale. Je viens à la table du Seigneur aussi souvent que possible. Très souvent, dans ma propre vie, je prends les choses les plus communes dans ma main et dans mon cœur. Elles deviennent des symboles du corps et du sang de Jésus-Christ, parce que cela est si significatif pour moi. Et pourtant, en y repensant, il y en a qui, pendant de longues périodes, ne viennent jamais ou rarement à la table du Seigneur. Comme il y en a beaucoup qui n'ont jamais été obéissants, en passant par le baptême. Et je suppose que ma pensée était toujours que peut-être ils sont simplement ignorants. Peut-être ils ne comprennent pas l'importance de la table du Seigneur, ou ils ne comprennent pas l'importance du baptême. Ils ne savent pas ce que c'est que de rendre un témoignage public dans l'obéissance à l'acte du baptême. Ils ne savent pas ce que c'est de communier avec Jésus-Christ et le corps et de célébrer la croix. Ils sont tout simplement ignorants. Je pense que je me suis dit, peut-être qu'ils sont simplement désobéissants, peut-être qu'ils agissent tout simplement de façon charnelle. Mais récemment, j'ai réfléchi à autre chose. Et voici le message que je veux partager avec vous ce matin. Je pensais récemment que si quelqu'un n'a pas le désir de témoigner par le biais du baptême, et si quelqu'un n'a pas envie de communier à la table du Seigneur, peut-être c'est un chrétien faible, ou peut-être ce n'est pas un chrétien du tout. Ils pensent peut-être qu'ils le sont, mais ils ne le sont pas. Et vous, êtes-vous chrétien? Vous dites, je suis chrétien, je crois. J'ai pris une décision pour le Christ. Croyez-moi, il y a beaucoup de personnes qui remontent au passé pour vérifier le christianisme ou le salut. Et la Bible ne remonte jamais au passé. La Bible ne parle jamais d'une décision prise dans le passé. Êtes-vous vraiment un chrétien? Vous dites, je suis venu à Jésus, j'ai invité Jésus dans ma vie. Est-ce suffisant? Laissez-moi vous montrer quelque chose. Nous connaissons tous 1 Corinthiens, chapitre 11, qui parle de la communion. Maintenant, permettez-moi de vous le rappeler brièvement. 1 Corinthiens, chapitre 11, au verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Maintenant, c'est assez fort. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez ce qui est pire que de ne jamais venir à la table du Seigneur? Venir à la table du Seigneur quand vous ne méritez pas d'être là, c'est pire. Parce que faire cela, c'est manger et boire indignement et être coupable du corps et du sang du Seigneur. Et ainsi le verset 28 dit « Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » C'est très sérieux de venir à la table du Seigneur. C'est grave pour un croyant de venir à la table du Seigneur, tout en entretenant le péché dans sa vie. C'est grave pour un chrétien de venir à la table du Seigneur sans se repentir de tout péché, désirant par-dessus toute chose la justice, la sainteté, et se détournant de tout péché connu. C'est grave. Mais ce qui est encore plus grave, c'est de venir à la table du Seigneur et de boire indignement, parce que vous n'êtes pas du tout chrétien. Paul demande un examen dans un autre passage, et je veux que vous le remarquiez. C'est le dernier chapitre de 2 Corinthiens, chapitre 13, au verset 5. Et je veux que vous notiez ce qu'il dit. 2 Corinthiens 13, verset 5, juste la première phrase. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-le, c'est ce qu'il dit. Éprouvez-vous vous-même. Vous dites à quelqu'un, êtes-vous chrétien? Si oui, sur quoi vous basez-vous? Eh bien, il y a plusieurs années, j'ai pris une décision. Cela ne veut rien dire. La Bible ne vérifie jamais le salut de tout le monde sur ce qui s'est passé auparavant. C'est toujours sur la base du présent. Et si vous n'avez pas la preuve évidente du vrai salut dans votre vie, maintenant, il y a une possibilité très réelle que vous ne soyez pas du tout chrétien, peu importe ce qui est arrivé dans le passé. Examinez-vous donc pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous. Vous dites, John, comment je fais cela? Comment savoir si je suis vraiment chrétien? Je crois. Peut-être que vous avez même été baptisé. Je vais à l'église. Je pense que je suis chrétien. Regardez avec moi au chapitre 5 de Matthieu, et découvrons-le. Quand Jésus était arrivé sur les lieux, les Juifs avaient déjà décidé de ce qui était juste. Ils avaient déjà construit leur propre code. Ils avaient déjà développé leur propre système. Et ils l'avaient très bien fait, et très bien conçu, que c'est ce que c'était d'être saint. Et tout était externe. C'était de l'autosatisfaction et des œuvres. Et Jésus est venu et a brisé ce système. Et il a dit, « Je vais vous donner un nouveau standard de vie. Je veux vous donner un nouveau critère par lequel vous pouvez évaluer si vous êtes racheté ou non. Je vais vous dire comment un citoyen du royaume vit vraiment. Vous voulez faire vos preuves. Voici la preuve. Vous prenez votre vie ce matin et laissez l'Esprit de Dieu le comparer avec le sermon sur la montagne. Et le résultat sera un examen et le résultat final montrera si vous êtes chrétien ou pas. Voilà la norme, et la clé de tout se trouve dans un mot. Maintenant, regardez cela. C'est le mot justice. C'est la clé. Jésus dit dans le sermon sur la montagne, « Si vous êtes un enfant du roi, si vous êtes vraiment converti, si vous appartenez vraiment à Dieu, si vous avez vraiment été racheté, la caractéristique de votre vie sera la justice. Et il y a beaucoup de personnes qui prétendent être chrétiennes. » Et vous cherchez longtemps à trouver une justice dans leur vie. Quelqu'un m'a dit la semaine dernière qu'il y a une dame dans notre église qui dit qu'elle est chrétienne. Et depuis qu'elle est chrétienne, elle vit avec un homme qui n'est pas son mari. Et 1 Corinthiens 6 dit « Les fornicateurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Pourquoi ? Parce que c'est un état constant d'injustice. Et la conversion est caractérisée par la justice. » Regardez-le au verset 20. C'est le verset clé de tout le sermon. Chapitre 5, verset 20. Jésus dit, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Écoutez, ils allaient tous les jours au temple, les dîmes payées, ils jeûnaient, ils priaient, c'étaient des monstres religieux, si vous voulez. Mais il a dit, « Je ne me soucie pas de tout cela, à part votre justice, c'est l'exigence minimale, et sans cela, vous n'entrerez jamais dans mon royaume. Vous voyez que la justice est la condition sine qua non. La justice est le problème. La justice est ce qui nous distingue comme convertis. Et la justice est simplement un long mot pour vivre correctement. Vivre selon les critères de Dieu. Vivre selon la définition de Dieu. » Dans 2 Timothée 2, verset 19, il est dit, « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Et qui sont-ils ? » Dans Tite 1, verset 16, il dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. En d'autres termes, la profession ne signifie rien, à moins d'obéir, à moins qu'il y ait justice, à moins qu'il y ait sainteté, à moins que l'on ne se détourne de l'iniquité. Dieu a tous les droits, il s'attend à cela. J'ai entendu quelqu'un dire l'autre jour, il prêchait et il a dit, n'est-ce pas merveilleux que vous puissiez venir à Jésus-Christ et que vous n'ayez pas à changer quoi que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est un mensonge qui vient de l'enfer. Il doit y avoir une transformation. Dans 2 Corinthiens 5, au verset 17, il est bien résumé comme ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une croix, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. 1 Jean, chapitre 1, verset 9, dit que les chrétiens confessent constamment leurs péchés. Être juste dans ce sens, pratiquer la justice, ne signifie pas ne plus pécher. Cela signifie que vous le traitez tout de suite quand vous péchez. Vous confessez votre péché, vous vous en détournez, vous vous repentez, vous le méprisez et vous le détestez. Vous ne l'aimez pas. Cela signifie, j'en dis au chapitre 2, « Si tu m'aimes vraiment, tu garderas ceci. Tu garderas mes commandements. » Et par là nous savons que nous le connaissons, quand nous faisons ce qu'il nous commande. Dans le chapitre 2, il dit, « Un vrai croyant sera celui qui aimera son frère. Celui qui est son frère est dans les ténèbres, même maintenant. » Plus loin, il dit, « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Et Jacques dit de cette façon, « Ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde est inimitié contre Dieu ? Vous les infidèles, vous ne pouvez pas être l'ami du monde et l'ami de Dieu. » Plus loin, dans le chapitre 3, il dit, « Celui qui est né de Dieu ne commet pas, ne continue pas à commettre le péché. Il ne peut pas, parce qu'une nouvelle semence est en lui, et il ne peut pas continuer à commettre de péché. » Maintenant, qu'est-ce que je dis ? Je dis ceci. Dieu dit que si vous êtes vraiment sauvés, il y aura la justice, il y aura la sainteté, il y aura une nouvelle approche de la vie. Il y aura le péché, oui, mais vous verrez une fréquence décroissante du péché. Et quand le péché apparaîtra, vous le mépriserez et vous le détesterez, comme Paul dans Romains 7 l'a fait. Et vous le confesserez, vous vous en détournerez, vous vous repentirez et vous aurez faim et soif de ce qui est juste. Et vous obéirez, vous aimerez votre frère, et vous détesterez le système diabolique du monde. C'est comme cela si vous êtes vraiment sauvé. Vous ne pouvez pas dire « Je suis chrétien » et continuer en prenant le même chemin que vous avez suivi. Vous dites que vous êtes un chrétien, alors prouvez-le. Je suppose que je ne me contenterai plus maintenant de dire que, si tu prétends être chrétien, si vous avez pris une décision quelque part lors d'une réunion ou d'une conférence, si vous avez marché jusqu'à l'autel, ou si vous êtes entré dans une salle, ou quelqu'un vous a offert un petit livre, ou quoi que ce soit, tout va bien. Je ne pense pas que ce soit le critère biblique pour le salut. Le critère biblique pour le salut est maintenant. À quoi ressemble votre vie en ce moment? Et croyez-moi, bien-aimé, et je dis cela avec une douleur dans mon cœur. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes dans l'Église de grâce qui ne sont pas chrétiennes. Nous ne le savons pas. Et peut-être qu'ils ne le savent même pas. Vous dites, quelles sont les normes? Regardons Matthieu 5 à 7, le sermon sur la montagne. Maintenant, je veux que vous voyez les critères. Jésus s'assied et nous enseigne les principes de la vie dans son royaume. Et voici où cela commence. Bénis sont les pauvres en esprit, verset 3. Car le royaume des cieux est à eux. Et le grec emphatique est indiqué ici. Il n'y a qu'une seule, personne d'autre qu'eux. En d'autres termes, les seules personnes qui entrent dans le royaume sont celles qui sont brisées dans leur esprit, celles qui font face à leur banqueroute spirituelle, celles qui se considèrent comme pécheurs, celles qui savent à l'intérieur qu'elles ne peuvent rien apporter à Dieu. Ils sont pauvres en termes de leur propre esprit. Ils ne peuvent pas compter sur quoi que ce soit. Ils n'ont aucun espoir pour eux-mêmes, les pauvres d'esprit. Le résultat est, au verset 4, qu'ils sont en deuil. Et, encore une fois, avec emphase, et ils seront réconfortés. Les seules personnes qui ont reçu le salut, les seules personnes qui sont entrées dans son royaume, sont les personnes qui sont brisées par leurs péchés, et qui pleurent leurs péchés. Et puis au verset 5, ce sont des hommes qui sont écrasés, et qui deviennent doux. Eux seuls hériteront de la terre, eux seuls sont les citoyens du royaume. Et le résultat de tout cela, quand vous êtes brisés en esprit, humbles et écrasés, et verset 6, que vous aurez faim et soif de justice, et eux seuls seront comblés. Écoutez, si vous n'êtes pas venu à Christ brisé à cause de votre péché, si vous n'êtes pas venu à Jésus-Christ littéralement brisé au plus profond de votre être, sur votre état de pécheur, si vous n'avez pas pleuré sur votre péché, si vous n'avez pas faim et soif de justice plus que toute autre chose, il y a une bonne probabilité que vous ne soyez pas chrétien. C'est le critère que donne notre Seigneur. Tout d'abord, il dit qu'il n'y a qu'une entrée pour atteindre le royaume. C'est là qu'il commence le sermon sur la montagne. un citoyen du royaume peut être déterminé par son propre altruisme, son propre mépris de soi, son propre sens de l'inadéquation, de banqueroute, du néant. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à Dieu parce qu'ils pensent que Jésus aimerait profiter dans ce qu'ils ont, de leur talent par exemple. Nous faisons la même chose des fois. Nous disons, ne serait-ce pas génial si telle ou telle personne célèbre devenait chrétienne, parce que le Seigneur pourrait. Il n'en a pas besoin. Qu'est-ce qui vous fait penser? Vous pensez qu'il a besoin de leur capacité en plus de son pouvoir? Pas du tout. Si vous ne venez pas à Jésus selon ses conditions, alors vous ne venez pas du tout. Et ces termes sont le brisement, le deuil, la douceur, la faim et la soif de justice. Et qui sont ces citoyens du royaume? Verset 7. Ils sont miséricordieux. Ils ont le cœur pur. Ils sont pacifiques. Ils sont persécutés. Ils sont haïs. Vous voulez savoir quelque chose? Si vous venez à Christ brisé, contrit, pleurant, affamé et assoiffé de justice. Et d'ailleurs, c'est la seule façon de venir. Je ne crois pas que quelqu'un est un chrétien s'il ne se repent pas du péché. Vous avez peut-être pris une décision il y a des années. Il n'y a pas de salut sans repentance. Et des années plus tard, peut-être que vous êtes revenu au Seigneur, brisé par votre péché. C'est le moment où tout est devenu réel. C'est le moment où vous êtes entré dans le royaume. Vous vivrez de cette façon le reste de votre vie, en aimant la justice et en haïssant le péché. Une des caractéristiques d'un chrétien est que quand il pèche, il méprise son péché, il le déteste. Ce n'est pas ce qu'il veut. C'est le péché qui est en lui qui fait cela, et il le déteste. Et quand vous arrivez dans ces conditions, le Seigneur vous rend miséricordieux, et il vous rend pur de cœur et pacificateur. Vous essayez de vivre comme cela dans le monde, et le monde vous rejettera. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au verset 10, vous êtes persécuté. Verset 11, vous êtes injurié. Des gens vous calomnient, disent faussement toutes sortes de choses contre vous. Mais c'est bon, soyez heureux. Pourquoi? Parce que vous êtes un citoyen du royaume. Maintenant, la première chose que je veux que vous voyez, c'est que si vous êtes vraiment un chrétien, vous venez en ces termes, pleurant sur le péché. Maintenant, une deuxième chose à ce sujet. Examinez-vous. Si vous êtes chrétien, non seulement l'entrée du royaume sera cette condition, mais votre témoignage sera différent aussi. Et c'est là qu'il va au verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Et puis au verset 14, vous êtes la lumière du monde. Maintenant, écoutez ce que je vais dire. Si vous êtes vraiment chrétien, votre témoignage sera nettement décisif et facile à distinguer du reste du monde. C'est ce qu'il dit. Vous voyez que le monde est comme de la viande en décomposition. C'est pourri. Vous savez que le sel est un conservateur et que nous sommes dans le monde pour préserver la décadence et la destruction du monde. C'est pourquoi la tribulation sera si horrible. Quand l'Église sera partie, le sel n'y sera plus. Et nous sommes ici pour préserver cette chose. Et nous ne sommes pas du monde. Nous sommes une agence de préservation au milieu d'une civilisation décadente et en décomposition. Et nous devons être un ensemble de lumière sur une colline. Et nous devons être un sel plein de saveur. En d'autres termes, il dit non seulement si vous êtes un chrétien, vous êtes sur la bonne voie, mais vous allez avoir un témoignage qui se distingue facilement et clairement du reste du monde. Qu'en est-il de votre témoignage? Est-ce évident pour tout le monde autour de vous que vous êtes différent? Ou faites-vous ce que font tous les autres? Est-ce que vous suivez le courant de la vie avec tout le monde? Quand vous êtes devenu chrétien, est-ce que cela a changé les choses dans votre vie? Si ce n'était pas le cas, cela ne s'est pas produit. Notre Seigneur va plus loin. Il accentue une autre chose qui désigne quelqu'un comme un enfant du royaume, et c'est l'obéissance. Verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Et ensuite, il continue à dire que votre justice dépasse celle des scribes et des pharisiens. Le point principal est celui-ci. Si vous êtes vraiment sauvé, vous serez obéissant. Il y aura des actes d'obéissance. la loi de Dieu sera quelque chose que vous désirez pratiquer. De nouveau, Romains 7. Paul désirait ardemment obéir à la loi de Dieu. Il avait faim de la loi de Dieu. Il se réjouissait de la loi de Dieu. Il aimait la loi de Dieu, même si le péché le poursuivait toujours. Alors examinez-vous. Êtes-vous vraiment sauvé? Êtes-vous en deuil à cause de votre péché? Êtes-vous brisé à cause de votre cœur mauvais? Examinez-vous. Êtes-vous vraiment clairement différent du reste du monde? Examinez-vous. Êtes-vous obéissant à Dieu? La grande fin de votre cœur est-elle de faire ce qui est sa volonté? Il va plus loin. Si vous avez vraiment été converti, vous penserez différemment. C'est vrai. Il parle des bonnes pensées au verset 21 et les suivants. Vous voyez que les Juifs faisaient les choses de l'extérieur. Ils ne pouvaient tout simplement pas gérer ce qui touche l'intérieur. Et ainsi le Seigneur leur dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. » Mais il dit, « Je vais aller plus loin et rentrer à l'intérieur et dire que vous ne devriez même pas avoir de mauvaises pensées dans votre cœur contre quelqu'un. » En d'autres termes, un enfant de mon royaume n'est pas quelqu'un qui n'est pas un meurtrier. C'est quelqu'un qui, dans son cœur, ne veut pas blesser qui que ce soit. Et Jésus pousse de tout à l'intérieur. Si vous êtes vraiment un enfant du royaume, vous allez avoir un cœur différent. Ézéchiel 36. Le Seigneur dit que lorsque vous êtes racheté, il enlève le cœur de pierre, le cœur de l'obstination, et il met un cœur de chair, un cœur nouveau à la place. Et plus loin, il dit au verset 27, « Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras point d'adultère. » Mais laissez-moi intérioriser tout cela. Vous ne devriez même pas vouloir commettre ce péché. Vous ne devriez pas regarder qui que ce soit de cette façon. Vous ne devriez pas nourrir ce genre de pensée. En d'autres termes, un citoyen du royaume est différent. Et quand quelqu'un dit « Je suis chrétien, j'ai juste des problèmes dans tel ou tel domaine » et il continue à être infidèle ou continue à vivre dans la fornication ou à être un homosexuel ou il continue dans d'autres péchés, je lis toujours 1 Corinthiens 6 et dis que ce genre de personnes n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous n'êtes pas venu à Christ selon ces conditions. Vous êtes venu avec les vôtres, et elles ne font pas l'affaire. Jusqu'à ce que vous soyez brisés par ces choses, jusqu'à ce que vous pleuriez et rampiez jusqu'à son royaume en pleurant pour la justice, vous ne saurez jamais ce qu'est la vraie rédemption. Au-delà des bonnes pensées, il dit que si vous êtes vraiment un enfant du royaume, vous aurez une bonne façon de vous exprimer, non seulement en pensant bien, mais en parlant correctement. Et au verset 33, il parle de cela. Il continue à parler de parjure, de jurer, et dit que votre communication doit être oui, oui, et non, non. En d'autres termes, vous devez parler de manière correcte, parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Et ainsi notre Seigneur dit, « Si votre vie a fin de justice, elle aboutira à l'obéissance. » Et l'obéissance signifie que vous pensez correctement. Et quand vous ouvrez votre bouche, les mots justes sortiront. Et quand vous agissez au verset 38, les bonnes actions seront le résultat. Vous ne riposterez pas, vous serez gentil. Et si quelqu'un en demande un, vous en donnerez deux. Au verset 43, vous aimerez votre prochain. Et puis, plus loin, vous aimerez même votre ennemi. Vous allez même adorer les percepteurs d'impôts. En fait, au verset 48, il dit que c'est l'idée, être comme Dieu, car il aime ses ennemis. Voyez-vous le point, éprouvez-vous. Ne me dites pas que vous êtes chrétien, car il y a 5 ans vous marchiez jusqu'à l'autel. Ne me dites pas que vous êtes chrétien, parce que vous avez signé un registre. N'essayez pas de dire à Dieu que vous êtes chrétien, parce que vous êtes allé à une réunion, que vous êtes entré dans une salle de prière, que vous avez parlé à un conseiller. Ne vous dites pas que vous êtes chrétien parce qu'un conseiller vous a dit que vous étiez un chrétien, parce qu'il ne savait pas non plus. La pire des choses que vous pouvez faire à quelqu'un, c'est de leur parler du Christ, et quand ils ont prié une prière verbalement, le Christ dans leur vie, pour ensuite s'asseoir là et les assurer qu'ils sont vraiment sauvés, parce que vous n'avez aucune idée s'ils le sont. C'est le travail du Saint-Esprit. C'est celui qui accorde l'assurance, et il l'accorde par le témoignage intérieur. Romains 8, et par l'exposition extérieure des œuvres qui le prouvent, parce que la foi sans les œuvres est quoi? Morte. Vous savez qu'une des choses que nous avons héritées de l'évangélisation qui a lieu dans notre pays et que nous croyons que le salut est attaché à une décision. Mais l'assurance du salut n'a rien à voir avec la décision prise dans le passé. Cela a à voir avec ce qui se passe dans le présent. Jésus l'a dit ainsi dans Jean 8. « Si vous continuez dans ma parole, alors vous êtes mes vrais disciples. » C'est toujours la continuité. C'est toujours présent. Ainsi, notre Seigneur dit, « Si vous êtes vraiment un enfant du royaume, vous êtes sur la bonne voie, pleurant sur le péché, et votre vie est totalement différente du monde. Vous êtes caractérisé par l'obéissance, la bonne pensée, de bonnes paroles, de bonnes actions. » Il va encore plus loin pour inclure des motifs justes, une bonne expression religieuse. Nous pourrions l'appeler une bonne manière d'adorer Dieu. Quand vous adorez Dieu au chapitre 6, ce n'est pas comme les charlatans qui sonnent de la trompette et viennent prier pour que tout le monde les voie. Ils parlent des hypocrites dont la religion est fausse. La vôtre est réelle, et quand vous priez correctement. Vous priez notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il dit que si quelque chose a vraiment changé dans votre vie, votre religion n'est pas fausse. Elle est vraie. Vos prières ne sont pas comme les prières des charlatans. Ce sont de vraies prières. Et votre jeûne n'est pas le jeûne de l'affichage public. C'est le jeûne du placard dont personne ne sait jamais. Donc, il dit, vous obéissez. Vous avez des pensées justes, des paroles justes, des actes justes, une adoration juste, et de bonnes relations aussi. Vous n'aimez pas l'argent, verset 19 du chapitre 6. Et je fais tout simplement quelques commentaires sur tout ce qui est mentionné ici. Jésus dit que vous ne devez pas vous procurer des trésors sur la terre. Vous ne devez pas être accroché au service de l'argent, parce que vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Ne dites pas que vous êtes un serviteur de Dieu, quand votre vie entière est vécue dans le but d'obtenir de l'argent. Ces deux choses sont incompatibles. Vous essayez d'être un ami du monde et un ami de Dieu, et vous ne pouvez pas. Si vous êtes un ami du monde, vous êtes l'ennemi de Dieu. Si vous aimez le monde, l'amour du Père n'est pas en vous. Jésus dit que les citoyens de son royaume ont une bonne relation avec l'argent. Ensuite, au chapitre 6, versets 25 à 34, les chrétiens ont une relation juste avec les choses matérielles. Ils ne sont pas toujours préoccupés par ce qu'ils portent ou ce qu'ils mangent, ou l'endroit où ils vont dormir, parce qu'ils savent que Dieu prendra soin de cela. Dieu gère tout cela. Verset 31. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ainsi, vous aurez un rapport juste en ce qui concerne l'argent et les choses matérielles. Et vous aurez même une relation juste avec les hommes, nous dit le chapitre 7. Vous ne jugerez pas les gens. Vous n'essayerez pas de jouer au pieu quand vous avez des problèmes dans votre propre vie. Donc, vous voyez que le Seigneur pose vraiment certains éléments de base, n'est-ce pas? Il dit que vous voulez savoir si vous êtes chrétien. Comment êtes-vous venu à Christ? Êtes-vous venu juste en disant, « Hé, Jésus, si tu peux me donner une vie heureuse, je vais la prendre. » Comment pourriez-vous avoir une vie heureuse? Comment aimeriez-vous avoir une vie abondante? J'ai un plan merveilleux pour ta vie. Voulez-vous savoir quelque chose? Dieu a un plan terrible, misérable et horrible pour votre vie, en dehors de Christ, et vous devez venir à lui selon ses termes, pas les vôtres. Alors vous êtes brisé et contrit, attristé par votre péché. Il vous changera immédiatement, vous donnera un nouveau cœur, et vous serez différent. Vous êtes le sel, vous êtes la lumière, vous êtes une colline et le monde peut vous voir. Vous êtes distinguable si vous êtes vraiment un chrétien, et votre vie est caractérisée par une fin de justice, ce qui signifie que vous allez vouloir obéir plus que vous ne voulez autre chose. Et cela se traduira par de bonnes pensées, de bons discours, de bonnes actions, une bonne adoration et de bonnes relations. Mais vous le savez, et immédiatement quelqu'un dit, « Qui peut vivre comme cela ?»« Bien, je suis content que vous soyez arrivé à ce point, parce que vous ne pouvez pas. Vous voulez savoir quelque chose, c'est simplement impossible. » Je peux vous l'illustrer en regardant Matthieu 19. Matthieu 19 au verset 23. Jésus venait de parler à l'homme riche, ce jeune chef riche. Il lui dit d'aller vendre tout ce qu'il avait et de le donner aux pauvres, puis de revenir et de le suivre. Et le riche aimait plus son argent qu'il n'aimait Jésus. Alors il prit son argent et s'en alla. Maintenant, regardez ce que Jésus dit. Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, maintenant écoutez cette déclaration. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, laissez-moi vous demander quelque chose. Un chameau peut-il passer par le trou d'une aiguille? Vous dites, vous ne comprenez pas. Il s'agit d'une porte dans le mur à Jérusalem. Eh bien non, c'est exactement ce que cela signifie. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un homme riche soit sauvé. Vous dites, c'est impossible. C'est exactement ce que le Seigneur vous a demandé de conclure. Verset 25. Les disciples ayant entendu cela, furent très étonnés. Maintenant, s'il avait parlé de la porte, ils n'auraient pas été étonnés, et dire, « Oui, qui peut donc être sauvé ?» Il savait qu'il disait qu'un homme riche ne peut pas être sauvé. C'est ce qu'il disait. Jésus les a regardés et leur a dit, « Je pense que vous avez reçu le message, les amis. Avec les hommes, c'est quoi ? Impossible. Avec Dieu, tout est possible. » Que disait-il ? Juste cela, la norme est impossible. Personne, à aucun moment, ne peut être sauvé. Mais avec Dieu, c'est possible. Voyez-vous ce qu'il essaie de dire ? Nous n'avons pas les ressources par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas le faire. Et c'est pourquoi vous devez être prêt à enlever ces bagages et à vous jeter à la merci de Dieu. Et l'homme riche ne voulait pas le faire. Il était prêt à grimper dans le train religieux, tout en portant son bagage de matérialisme. Et donc, il ne pouvait pas aller de l'avant. C'était comme essayer de passer par le trou d'une aiguille avec un chameau à bosse. C'était impossible. C'est le but ici. Le seul moment où quelqu'un entre dans le royaume est quand il réalise qu'il ne peut pas le faire lui-même. Il se met à nu et revient à Matthieu 5, verset 3, brisé en esprit, en deuil, affamé et assoiffé, d'une justice qui, pour lui, est absolument impossible à atteindre. Vous dites, mais la plupart des personnes ne veulent pas remplir ces conditions. Vous avez raison. La plupart des personnes veulent aller au paradis par leurs propres moyens. Donc, ils veulent continuer avec toute leur crasse. Ils sont comme un homme qui part en voyage avec 4 sacs. Voici la mondanité, le péché, Satan et sa propre personne. Et ils continuent la route ensemble. Ils disent, « Jésus, je veux le bonheur que tu vas me donner. Je veux dire, sans aller en enfer, je viens. » Au passage, il y a un chemin pour eux. Retournez à Matthieu 7 au verset 13 et laissez-moi vous le montrer. Matthieu 7, verset 13. Maintenant, vous voyez les disciples en ce moment avec la multitude qui se dit probablement. Avec ce genre de normes, qui peut y arriver ? Qui peut être sauvé ? Qui peut se qualifier ? Écoutez ceci. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et regardez la suite. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Pourquoi ? Vous pouvez y aller avec tous vos bagages. La porte est large. Cette chose énorme. Vous prenez toutes les ordures que vous voulez, toutes vos œuvres et toute votre justice. Et je vais le faire à ma façon. Et je veux Jésus, mais je veux aussi des autres choses. Comme l'homme qui disait qu'il était chanteur à Las Vegas. Puis il a été sauvé. Et ensuite il a continué à chanter à Las Vegas. Il me semble qu'il essaie de passer par la porte étroite avec une pile de bagages. Vous savez que la porte étroite et la porte large sont différentes en ce sens. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Écoutez, c'est difficile quand même. Et le mot signifie littéralement une voie comprimée. Vous ne pouvez pas jongler avec tous ces déchets sur cette voie. En premier lieu, vous ne pouvez pas passer à travers la porte étroite. Avez-vous déjà essayé de prendre 4 valises et passer par un tourniquet ? Vous ne pouvez pas le faire, c'est impossible. Vous ne pouvez pas entrer de cette façon. Vous devez laisser tomber toutes les poubelles. Vous devez vous mettre à nu. Maintenant, je veux que vous remarquiez autre chose. La voie large qui mène à la destruction n'est pas la route vers l'enfer, non. Ce ne sont pas des personnes qui s'entassent sur la route de l'enfer. C'est la route du paradis. Seulement c'est la mauvaise route. Ils pensent que cela va au paradis. Ils arrivent tous sur la route de Jésus. C'est la route large. Vous n'avez pas à laisser tomber quoi que ce soit. Vous n'avez pas à vivre différemment. Vous n'avez pas besoin de penser autrement. Vous n'avez rien à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est de dire que vous avez pris une décision. Où j'ai été baptisé. J'ai marché jusqu'à l'autel. Je suis allé de l'avant. J'ai signé un registre quand j'étais enfant. Ma mère m'a aidé. Et vous pouvez porter toutes vos ordures et les empiler à côté. La seule chose, c'est que c'est une route large qui mène à la destruction. La partie triste de tout cela, c'est que beaucoup passent par là. Pour la porte étroite, la seule façon dont vous pouvez passer est de laisser tomber votre péché, Satan, vous-même et le monde. Et dur ou comprimé est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Écoutez, dans Grace Church, il y en a quelques-uns, mais quand même beaucoup, qui sont sur la mauvaise route. Vous êtes sur cette route et vous avez toute votre mondanité, toute votre dévotion, toutes ces autres ordures. Vous n'avez jamais coupé le cordon avec le monde. Vous n'avez jamais coupé le cordon avec votre mode de vie diabolique. Vous n'avez jamais changé votre propre approche pharisaïque de Dieu. Vous pensez toujours que c'est bon de continuer à faire de bonnes œuvres et que vous allez y arriver. Mais je vais vous dire que vous êtes sur la grande route et que vous allez un jour entrer par le portail du ciel. Comme le dit John Bunyan, découvrez qu'il y a une entrée en enfer depuis le ciel. Vous voulez savoir quelque chose? Beaucoup de personnes s'y engagent parce que c'est facile. Et il y a beaucoup de personnes qui vendent des billets. Savez-vous cela? En fait, nous verrons cela dans la prochaine partie, car elle dit « Prenez garde aux faux prophètes », dit le verset 15. Que font-ils? Ils essaient de vous emmener sur la route large. Ils essaient de vous pousser vers le chemin facile. Vous n'avez rien à changer. Sautez juste sur le train et prenez Jésus, vous voyez. Mais savez-vous ce qui va se passer quand vous arriverez au bout de cette route? Le verset 21 nous dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Vous ne voyez pas. C'est toute la foule qui était sur la route large. Vous voyez le mot « beaucoup » au verset 13. Beaucoup sont sur cette route. Et puis au verset 22. Quand beaucoup arrivent enfin et disent « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait toutes ces choses? Nous sommes le groupe de l'Église. Seigneur, nous étions impliqués dans le ministère de la délivrance. Nous prêchions. Nous avons fait de merveilleuses choses. » Et je leur dirai, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, travailleurs d'iniquité. » Et diront, « Seigneur, vous verrez qu'il y aura beaucoup de personnes qui ne découvriront pas jusqu'à la fin qu'ils sont sur la mauvaise voie. Et je suppose que c'est pour cela que je vous prêche ce message aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire cela. Je veux dire, ne vous endormez pas pour dormir. Peu de personnes trouvent cela, parce que peu d'entre eux étaient prêts à aller de l'avant, selon les termes de Dieu. Et puis, il donne une illustration pour terminer. Maintenant, si vous voulez savoir comment cela fonctionne, il dit « Laissez-moi vous raconter une histoire au sujet d'un homme sage, verset 24, qui a construit sa maison sur un rocher. La pluie est tombée, les flots sont venus, les vents ont soufflé et ont frappé sur cette maison, et elle n'est pas tombée, car elle a été fondée sur le rocher. Maintenant, il y a un homme qui est venu selon les termes de Dieu. Il était sur le rocher, et il a construit sa maison. Il a construit cette maison sur le rocher, et elle tenait. » Verset 26. « Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, ceci est la désobéissance, sera semblable à un homme insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. » Écoutez, cet homme a construit une belle maison aussi. Sa religion a l'air excellente. De beaux murs extérieurs, de grandes fenêtres, de grands murs intérieurs. Le toit est magnifique. La maison religieuse fabuleuse. « Oh, nous avons prophétisé et chassé les démons. Nous avons fait. Oh, Seigneur, Seigneur, regarde ce que nous avons fait. La seule chose est qu'elle n'a jamais été selon les termes de Dieu. Donc la fondation, c'était du sable. Et quand la pluie est descendue, les inondations sont venues. Les vents ont soufflé sur la maison, et elle est tombée, et la chute était grande. Vous voyez ce qu'il dit? Quel désastre de venir au moment du jugement et d'avoir l'éveil brutal. » Que la seule chose qui vous attend, c'est l'enfer, parce que vous n'êtes jamais venu selon les conditions de Dieu. Et ainsi, je vous le répète, bien-aimés, examinez-vous. Si vous êtes dans la foi, faites vos preuves. Ce sont les conditions de Dieu. Inclinons nos têtes un moment. Cela me rappelle les paroles d'Isaac Watts. la nature coupable est si impuissante, inconsciente du poids de sa charge. Le cœur inchangé ne peut jamais s'élever au bonheur et à Dieu. La volonté perverse, les passions aveugles, errent dans les sentiers en ruine. La raison dégradée ne peut jamais trouver la voie de sécurité. Le chemin étroit. Peut-être que, sous une puissance divine, la volonté obstinée se soumet. C'est à toi, Sauveur Tout-Puissant, à toi de former à nouveau le cœur. Change nos cœurs honteux et donne-leur la vie divine. Alors nos passions et nos pouvoirs, Seigneur Tout-Puissant, seront à toi. Père, nous t'invitons à nous changer. Pour quiconque parmi nous ce matin compte sur un salut qui est invalide, qu'ils soient convaincus qu'ils sont dans l'erreur. Brise une telle assurance. Conduis-les au lieu de la pénitence, afin qu'ils arrivent à remplir tes conditions, disant adieu à soi-même et au péché, à Satan et au monde, pour embrasser ta sainteté, sans laquelle personne ne te verra. Alors, Père, pardonne-nous avec ta grâce et ta miséricorde. Merci pour notre temps de culte aujourd'hui. Nous sommes impatients de nous réunir à nouveau ce soir, dans la joie du témoignage de ceux qui ont reçu un cœur nouveau. Nous prions au nom du Christ. Et tout le monde a dit Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.